Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing, une certaine idée ou une idée certaine de la modernité de sa campagne pour la présidentielle, à sa manière d'habiter la fonction des réformes sociétales qu'il a menées et portées, à sa conception du pouvoir. Avec nos invités aujourd'hui, nous interrogeons cet héritage, l'héritage de celui qui fut le plus jeune président élu en France, décédé hier, on l'a appris, à l'âge de 94 ans. Le style et l'action de celui qui va insuffler une vraie modernité, assurément, à la fonction avec quelques grandes réformes, donc à son actif. Nos invités, c'est un grand historien de la vie intellectuelle, culturelle et politique française sous la Ve République, Jean-François Cirinelli, auteur entre autres d'une série « Les années Giscard » parue chez Armand Collin. Bonjour Jean-François Cirinelli.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Également connecté à nous, Marc Lambron, l'académicien, l'écrivain, l'auteur de « Carnet de balles », chronique 1, 2, 3, 4, parue chez Grasset. Vous aviez, vous, 18 ans sous Giscard, Marc Lambron, l'ancien président que vous avez retrouvé des années après à l'Académie française où il a fait son entrée, lui, en 2003, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui avait donc rejoint les rangs des immortels. Bonjour Marc Lambron.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. En fin d'émission, nous retrouverons le romancier Éric Reinhardt, auteur de comédies françaises chez Gallimard, un roman qui revenait mettre les deux pieds dans cette époque si particulière, dans cette décennie que fut celle des années 70. Jean-François Cirinelli, c'est toujours intéressant d'observer la une des journaux. Alors la presse française, comme Le Monde, qui paraîtra en début d'après-midi, titre sur ce président moderne. Mais la presse étrangère, surtout depuis hier soir, remet à sa une un mot en boucle pour décrire Valéry Giscard d'Estaing. C'est ce mot de modernité, de transformation. Il était l'homme qui s'est battu pour transformer son pays, pour le New York Times, qui voulait moderniser la France. Analyse également le quotidien belge Le Soir. C'était cela, Giscard ?
Oui, on ne peut pas récuser le mot modernité, simplement il n'en est pas propriétaire. Je m'explique, nous parlons d'une France, la France des années 70, qui est en train de changer à l'époque à toute vitesse et qui entre de toute façon dans la modernité. Donc disons qu'il a compris le mouvement et qu'il a entendu l'accompagner, voire l'accélérer. Moi j'aurais plutôt tendance à parler du changement, c'est-à-dire qu'il a placé sa campagne éclair, hein, quelques semaines à peine, entre la mort de Georges Pompidou et sa victoire, sous ce signe du changement et de ce qu'il appelait la société libérale avancée. Donc vous voyez, c'est cette notion de changement, changement de deux façons. D'abord, ne l'oublions jamais, on parle de l'alternance en 81, la gauche l'emporte sur la droite, mais d'une certaine façon, sa victoire en 74 était une première forme d'alternance. C'est le premier président non gaulliste. Nous sommes déjà 16 ans après la naissance de la Ve République. Et d'autre part, bien évidemment, changement en raison de son âge. Il succède à un président qui avait quitté le pouvoir à 79 ans et à un autre président, Georges Pompidou, qui était malade à la fin de son mandat et qui donnait l'impression physique, d'ailleurs, terrible pour lui et pour ceux qui le voyaient, d'une très grande lassitude. Donc c'est vrai qu'il fait contraste et qu'il change en quelque sorte, y compris l'image des présidents à cette date.
Voilà, et la modernité en 74, vous l'évoquez, c'est aussi la vitalité hein, que porte cet homme en lui et aux yeux des Français avec cette campagne éclair qui va devenir un modèle par la force des choses parce qu'elle est provoquée par la mort de Pompidou, un destin qui va se déclarer là en quelques instants. Marc Lambron, vous évoquiez un souvenir quand vous avez appris hier la mort de Valéry Giscard d'Estaing, une, puisqu'on parle de presse étrangère, celle de la Stampa, avec un article de décembre 1974. Qu'y avait-il en une ?
Giscard fa colazione con i spazzini, c'est-à-dire Giscard prend un petit déjeuner avec les éboueurs. Donc ça, c'est le Giscard décrispé, si l'on veut. C'est l'accordéon, c'est en effet les éboueurs, et ce sont les dîners parachutage chez des Français moyens, comme on disait, dont le cinéaste Joël Santoni avait d'ailleurs tiré une satire avec un film intitulé Les yeux brouillés. Mais si vous permettez, je voudrais partir en rétrospection, c'est-à-dire que le Giscard que j'ai connu était celui du crépuscule, et la modernité dont nous parlons, il la voyait en crise, il voyait la France en déshérence les dernières années. Il relisait Gibbons, il s'interrogeait sur la décadence des empires, et vous savez que lorsqu'il est allé voir en juillet 2017 Emmanuel Macron, à peine élu, ou plutôt Emmanuel Macron est venu le voir, pardon, il lui a posé tout de suite la question « Avez-vous connu la Grande France ?» Ce qui était une façon pour un inspecteur des finances d'en jauger un autre, c'était aussi une façon de dire qu'il inscrivait cette modernité dans une perspective qui était celle de l'histoire. Il avait combattu en 1944 et il avait été le ministre général de Gaulle. Néanmoins, une anecdote, il n'y a pas si longtemps, il me dit « Avez-vous remarqué que le centre de gravité de Paris s'est déplacé vers les 10e et 11e arrondissements ?» Il voyait la culture bobo et il percevait les hipsters du canal de l'Ourcq. Une chose encore, si vous permettez, c'est qu'à l'Académie, physiquement, puisque les fauteuils sont assignés, il siégeait à côté de Jean-Loup Dabadie. Et je me prenais souvent à penser que ces deux hommes avaient conformé quelque chose de la France des années 70, c'est-à-dire Giscard, le technocrate sentimental du libéralisme avancé, et Dabadie, qui par ses scénarios pour Sautet ou ses chansons pour Reggiani, avait cerné un certain profil de la masculinité blessée et des quadragénaires désemparés par la prise de liberté des femmes.
La décennie où Valérie Giscard d'Estaing fut au pouvoir, cette décennie des années 70, c'est celle de vos 20 ans, Marc Lambron. On y revient en son avec notre réalisateur Thomas Beau.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Le sujet que je voudrais traiter ce soir devant vous est différent de ceux dont je vous ai entretenu au cours de mes précédents entretiens au coin du feu. Je souhaite d'ailleurs que le feu soit allumé cette année pour la dernière fois. En effet, vous gérez le ministère de la parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France.
La majorité a été fixée à 18 ans.
On souhaitait du changement. On le souhaitait. Moi, il faut se rappeler quelque chose de fondamental. C'est que par sa nature même, la vie est nouvelle. Et qui ne change pas meurt. Et si la société française ne changeait pas, elle mourrait.
Je suis partisan, je l'ai dit, ce n'est donc pas pour moi l'occasion de le faire pour la première fois. Je suis partisan d'une très large liberté d'information.
Alors concernant le problème de l'avortement, c'est un sujet qui devrait être traité par le Parlement lors de sa prochaine session, de façon à être tranché avant la fin de la présente année. Je souhaite qu'il tranche dans un sens qui soit libéral, et non répressif.
Enfin, réforme du divorce, et notamment du divorce par consentement mutuel, qui a fait l'objet d'un projet de loi élaboré par le ministre de la Justice. Vous trouvez peut-être que ces explications sont un peu longues, et cependant, quand je vous parle, j'ai toujours l'impression d'être un peu bref. Mon idée n'est pas de choisir tout seul le changement pour la France. Mon idée est de vous permettre, à vous toutes et à vous tous, de déterminer ensemble votre avenir commun.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Une photographie sonore des années Giscard. Marc Lambron, vous avez 17 ans, si mes calculs sont bons, hein, quand Valéry Giscard d'Estaing accède donc au pouvoir en 1974. À 63 ans, il doit y avoir quelques souvenirs qui vous remontent aujourd'hui de ces années Giscard et notamment de cette campagne si particulière qu'on évoquait avec Jean-François Cirinelli. Une image peut-être, est-ce que ce serait celle de Brigitte Bardot, l'ami en 74 qui s'affiche libre avec son t-shirt Giscard à la barre, ce slogan du candidat sur la poitrine de la star, mais qui en dit long aussi sur à la fois cette chose un peu de féminin qu'avait Giscard, cette fascination aussi pour cette jeunesse qui est en train de se libérer. On est 6 ans hein, après mai 68 et ça compte, Marc Lambron.
Oui, alors Brigitte Bardot ou Johnny Hallyday, deux mythes français qui prennent fait et cause pour Giscard. J'ai aussi le souvenir des interventions de Jacques Chaban-Delmas faisant venir André Malraux auprès de lui et de ce que ça avait eu de calamité à l'époque. Regard de cette modernité, de cette juvénilité qui était celle de Giscard. Alors, en effet, très vite, en juillet 1974, il fait voter la loi sur la majorité à 18 ans. J'en avais parlé des décennies après, et il m'avait dit, vous savez, je savais très bien que les 300 000 ou 400 000 jeunes gens qui étaient concernés par la réforme ne voteraient probablement pas pour moi. Mais je l'ai fait parce que les grandes démocraties étaient en train de le faire aussi. Et donc contre son intérêt, en quelque sorte, de la même façon que l'IVG, semble-t-il, avait été décidé contre sa conscience, en quelque sorte. Mmh. Mais il y avait cette idée que il fallait accompagner le changement. Deux choses. 74, si vous regardez les courbes, il y a explosion de deux choses, la contraception, qui, pourtant la loi de Wirth existait depuis 67, et le téléphone, l'un n'allant pas sans l'autre. Ce qu'on a un peu oublié aussi, c'est que aucun président jusqu'à lui n'avait nommé autant de femmes ministres, puisque Simone Veil, Alice Saunier-Seyté, Hélène Bissoff, Hélène Dorlac, Françoise Giroud, arrive dans le cabinet, le premier cabinet Chirac. Mmh. Il y avait un côté express, il y avait un côté Madame Express, si j'ose dire, chez Giscard. Il avait fait venir Simon Schreiber, qui n'est resté que 15 jours pour un dissentiment sur la question nucléaire, et François Giroud, qu'il estimait et qu'il avait éberlué, m'a-t-il dit plus tard, parce que au bout de 2 ans, elle était venue le voir en disant « ma mission est accomplie, je rends mon tablier ». Il n'avait jamais vu un ministre démissionner sur ce mode.
Jean-François Cirinelli, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, nous disait à l'instant Marc Lambron, contre sa conscience ou peut-être contre ses convictions, est-ce que c'était pour autant par opportunisme? Pas sûr, mais 68, c'est quand même un événement qui va être très important pour lui dans sa philosophie du pouvoir, peut-être dans son ressenti du pays. Est-ce que vous diriez que plus qu'aucun autre président avant lui, il a senti cette envie de changement et surtout qu'il a pris soin de l'incarner?
Ben, d'abord, il était plus jeune que ses deux prédécesseurs. Par-delà cette apparente banalité de mon propos, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'un homme comme le général de Gaulle est un homme du 19e siècle. Il est né en 1890, donc déjà cette France des années 60, 10 ans plus tôt, commence à lui devenir, sinon étrangère, en tout cas éloigné en quelque sorte. Dans le cas de Georges Pompidou, c'est différent. Il a compris cette mutation en cours. Et n'oubliez pas que quand il nomme Jacques Chaban-Delmas Premier ministre, les réformes seront des réformes placées sous le signe de la nouvelle société. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que tout à l'heure, je nuançais d'entrée en disant pas, il n'est pas propriétaire de la modernité. Simplement, vous le disiez à l'instant, et Marc Lambron le disait, il a senti les forces profondes qui travaillaient en profondeur cette société, sauf que là aussi, faut pas commettre d'erreur, et d'ailleurs, Marc Lambron le rappelait, on dit jeunesse, mais une grande partie de la jeunesse n'a pas voté pour lui. Il faut voir d'ailleurs qu'à l'époque, sa victoire est une victoire presque surprise. Il a en face de lui, excusez du peu, un candidat unique de la gauche qui fera 43% dès le premier tour et, toujours excusez du peu, un candidat gaulliste qui a été un premier ministre plutôt respecté par les Français. Donc il arrive à se glisser en quelque sorte au prix ou à la suite d'une campagne extraordinaire qui sera enseignée ensuite pendant des décennies dans les états-majors. Hein. Et je le répète, il incarne la jeunesse, mais la jeunesse n'a pas forcément à l'époque voté pour lui.
Mais c'est intéressant, mais juste c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf finalement. Mais quand vous parlez de cette modernité, alors est-ce à dire que c'est lui qui a été un président moderne à l'image de la France qu'il a présidée, ou est-ce que c'est cette France qu'il a aussi profondément transformée par son action politique?
Je crois qu'il a profondément compris mai 68, je dis pas qu'il approuvait, mais il a compris qu'il y avait là une mutation en marche et accélérée précisément par mai 68. Je crois que pour revenir à votre question sur l'IVG, il y a de sa part un incontestable courage, car ne l'oublions pas, sa majorité, ou plus exactement la majorité gaulliste, traînera des pieds. Il faut jamais oublier que la réforme de Simone Veil a été votée grâce aux voix de la gauche. Et d'autre part, il le disait d'ailleurs lui-même dans des témoignages aux historiens ou à ses proches, une partie de ses conseillers lui disait « faites attention, c'est pas simplement les députés, c'est votre électorat qui, pour des raisons au demeurant respectables, je veux dire de spiritualité ou autre, ou culturelle ou d'âge, était hostile ». Et on peut même se demander si les centaines de milliers de voix, mais pas tant que ça, qui lui ont manqué en 81, est-ce qu'il n'y a pas dedans aussi un certain nombre de gens qui n'avaient pas, entre guillemets, pardonné le choix de 1974? Toujours est-il que, incontestablement, cette réforme de 1974, qu'il appelle de ses voeux, et il soutient Simone Veil tout au long de son parcours, est une réforme courageuse, pas simplement par son résultat, mais par rapport, j'allais dire, à son propre logiciel.
La dépénalisation de l'avortement, l'âge de la majorité, on n'a pas évoqué, mais aussi la question des médias avec la libéralisation de la télé, la fin de l'ORTF. Hein. Est-ce qu'il a été si moderne que ça, quand on sait que Valérie Giscard d'Estaing aussi n'a pas été au bout de certaines réformes? On pense à l'affaire du pull-over rouge, à Christian Ranucci qu'il ne va pas, à qui il n'accordera pas, Christian Ranucci, de grâce, la peine de mort. C'est peut-être la réforme qu'il a manqué et qu'il a laissé passer entre les mains de François Mitterrand par la suite.
Alors,
il n'était pas prêt, ou la France peut-être ne l'était pas.
Vous avez raison, quand on met en perspective ce septennat, on se rend compte qu'il y a un élan initial qu'on évoquait à l'instant, incontestable, très rapide, mais ensuite, sinon un tarissement, en tout cas une décélération rapide. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu quoi ? Il y a eu la crise. La crise est passée par là. Il faut imaginer ce que représente pour cette France qui est, au terme de 30 glorieuses, de croissance de 5% l'an, d'un seul coup en 1974, c'est-à-dire l'année même où lui-même arrive au pouvoir, le chômage va être multiplié par 2, la croissance qui était à plus de 5% va baisser aux alentours de 1% de nos jours, c'est très bien 1%, mais à l'époque c'est une décélération très terrible, et l'inflation passe à 15%. Donc il faut jamais oublier que Valéry Giscard d'Estaing est le premier orphelin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'il subit lui-même la mort, en quelque sorte, de ces 30 Glorieuses. Non seulement il l'a subi, mais désormais, il a à la gérer. Et du coup, même psychologiquement, ça entraîne, on le sent bien physiquement quand on regarde les photos au fil du septennat, ça entraîne une sorte de raidissement qui sera interprété souvent par une partie des Français comme de la morgue. Et ce qui est intéressant par-delà le grand président qu'il a été, c'est de voir que, au fil de ce septennat, il y a une exaspération qui monte de la part d'une partie de l'électorat contre lui, d'autant que la gauche continue à monter en puissance à l'époque. Donc, ce septennat, il est parti, si vous voulez, sous des auspices apparemment très favorables, mais ensuite, ça a été compliqué, d'autant que, on l'a pas dit pour l'instant, une partie de sa majorité, à partir de là, lui plante un certain nombre de poignards dans le dos.
Alors ça, c'est le personnage presque romanesque dans cette vie politique qui va apparaître. Juste Marc Lambron, sur cette question, là, sur cette présidence, Valéry Giscard d'Estaing, premier président de la modernité, mais aussi premier président de la crise, ça s'est ressenti dans la perception qu'on avait de lui, dans l'opinion, vous vous souvenez de ça ?
Je me souviens très bien, en 73, avant son élection, crise pétrolière. Et pour moi, élève de lycée, le mot crise était historique. Ça renvoyait à la crise de 29. Ça avait disparu du vocabulaire politique. Je crois que un des paradoxes de Giscard est temporel. François Mitterrand lui avait dit « Vous avez été élu trop tôt ». Et Giscard en convenait. Parce qu'au fond, on l'aurait assez bien imaginé, en grand argentier, en inspecteur des finances qu'il était, coïncider avec les années Reagan, avec Wall Street, avec les années 80. Or, sociétalement, la France sur laquelle il règne, en quelque sorte, c'est une France encore rurale et libertaire à la fois. C'est-à-dire que vous avez dans la télévision des campagnes, c'est les années Carpentier et Daniel Gilbert, vous avez Claude François, Dave, Ringo, Willicat et Mort Schumann. Et puis, dans les lycées, ça c'était ma génération, on lit Charlie Hebdo, on lit Actuel, on se gargarise de rock, et parfois de quelques fumettes. Et Giscard est le roi involontaire d'un pays, au fond, qui sociétalement avance encore plus. Pour moi, si vous voulez, si je devais mettre deux médaillons en regard, d'un côté il y aurait Giscard et en face il y aurait Delphine Seyrig. C'est cette époque-là ambiguë, avec cette rigidité monarchique qui surgit à partir de 78-79, et c'est à ce moment-là l'homme qui, à l'Élysée, fait servir sa famille avant les invités. Et puis c'est le raidissement avec l'affaire des diamants et le Joffre de l'économie, Raymond Barre, dont il n'était pas loin de penser, quand il en reparlait, qu'il lui avait coûté son élection en 81.
France Culture, avec nos invités, l'historien Jean-François Cirinelli, l'académicien Marc Lambron, et à suivre le romancier Éric Reynard. Marc Lambron qui nous disait à l'instant cette phrase qu'on retiendra, les années Giscard, c'est l'époque où le moment, où c'est l'époque où le mot crise est devenu historique. C'était une époque où le mot crise était encore un mot historique. Aujourd'hui, il s'est malheureusement fortement banalisé. 13h15.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
Un mot avec vous, Jean-François Cirinelli, de l'importance de l'image dans cette présidence, Valérie Giscard d'Estaing. C'est le premier président de l'image, de la communication.
Oui, oui et non. Je nuance. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ses prédécesseurs avaient compris le rôle de la télévision. Un homme comme le général de Gaulle, dans ses conférences de presse, avait appris à maîtriser l'outil. À sa manière, Georges Pompidou aussi avait géré, en quelque sorte, ce basculement vers l'image et le son. Mais c'est vrai que lui en est pleinement conscient avec, tout à l'heure Marc Lambron le rappelait, un certain nombre quelquefois de dérapages presque burlesques. C'est vrai que quand il reçoit les éboueurs ou quand il s'invite chez les Français, quand il fait savoir qu'il aime les œufs brouillés, ben on en a fait un film qui s'appelle de fait Les œufs brouillés et où on voit ces dérapages. Mais par-delà ces dérapages, il y a incontestablement une intelligence et une acculturation de cet objet. Avec en même temps un personnage, à certains égards, Janus, parce que c'est l'homme de l'accordéon, ou en tout cas qui se présente comme tel, c'est l'homme qui va dans les émissions de Daniel Gilbert, et c'est l'homme aussi qui se pique de littérature et qui viendra chez Bernard Pivot parler de Maupassant. Et donc c'est aussi cet aspect Janus pour une France qui est devenue Janus. Et donc c'est une situation, vous l'avez, très compliquée à gérer, d'où peut-être ce raidissement.
C'était presque un performeur, un artiste aussi, par certains côtés, Valérie Giscard d'Estaing, avec, on pense aussi à sa mise en scène de la chaise vide, pour symboliser son départ en 1981. Il faudrait retourner faire un tour dans ce musée de l'Aveyron, dont il a d'ailleurs réalisé la scénographie. Vous évoquez un moment important, cet entretien avec Bernard Pivot, apostrophe, on est en 1979. C'est un président qui va parler littérature à la télé.
Je suis un lecteur, et notamment un lecteur de Maupassant, et je pense que dans les œuvres littéraires, dans les grandes œuvres littéraires, il est normal que de temps en temps, les lecteurs soient entendus. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Maupassant, comme vous le savez, n'était pas tendre pour ses critiques, et il cherchait à connaître les réactions de ses lecteurs. C'est quelqu'un qui écrivait constamment pour le lecteur. Il l'appelait d'ailleurs le lecteur artiste. La seconde raison, c'est que je suis passionné de style et que je considère que l'écriture de Maupassant est une des écritures les plus fines, les plus nerveuses, les plus précises de la littérature française. Et enfin, autre raison, c'est que si l'on pense à cette période extraordinaire du roman mondial qu'a été le 19e siècle, après avoir lu les œuvres des uns des autres, je pense que Maupassant est probablement, je dis probablement, le romancier le plus français. Il est probablement celui qui exprime, non seulement dans son écriture, dans ses sujets, dans sa façon d'être, le tempérament français de l'époque, c'est-à-dire une partie du tempérament français de toujours. Et enfin, dernière allusion, parce que je souhaite qu'il n'y en ait pas d'autre à ma fonction, c'est pour moi une certaine manière de rendre hommage à la littérature française et à ceux qui l'ont faite, à ceux qui la font, à ceux qui la feront. Je suis très frappé, en effet, dans tous mes déplacements, dans toutes mes rencontres, de l'extraordinaire éclat de la littérature française dans le monde. Et d'ailleurs, vous parliez de Maupassant. Maupassant est lu en Union soviétique à une échelle considérable. Il est lu aux États-Unis, à une proportion considérable. Et donc, il est naturel que le président de la République, à cette occasion ou à une autre, rende hommage à la littérature française.
Voilà Valéry Giscard d'Estaing, écrivain et grand lecteur. Ici, chez Pivot, il parle de son amour pour la langue, pour l'écriture, pour Maupassant aussi, au moment de l'entrée de l'auteur du Horla dans la Pléiade, Jean-François Cirinelli. Pourquoi c'est resté une séquence phare et inoubliable ?
Alors d'abord, rien ne nous autorise à mettre en doute son honnêteté, sa sincérité du propos. Donc, portons-lui acte en quelque sorte de cela. Sauf que en même temps, c'est de la communication. Je m'explique. Il est précédé de deux présidents de la République, dont l'un est un mémorialiste, le général de Gaulle, dont l'autre, Georges Pompidou, est pétri d'humanité classique, a écrit une anthologie de la poésie française, et son principal adversaire tout au long de son septennat, c'est François Mitterrand, qui apparaît comme l'homme qui a toujours un livre à la main ou dans la poche. Et donc c'est vrai que, d'une certaine façon, c'est pour ça que je parlais de sincérité ou pas, il a à compenser, peut-être même au très fond de lui-même, a-t-il une sorte de complexe. Reste qu'en même temps, on voit ce poids, cette importance de la littérature française sur les présidents de l'époque. Et tout ça, est-ce le monde d'avant? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui questionne bien évidemment l'historien.
Alors, il a écrit d'ailleurs des essais politiques, il a écrit des œuvres plutôt testamentaires, des romans aussi, et on n'oubliera pas La Princesse et le Président, sorti en 2009. Vous devez nous laisser. Merci mille fois à vous, Jean-François Cirelli, d'avoir été avec nous autour de cette grande table pour évoquer la modernité, ou certains aspects de la modernité, ou une certaine idée de la modernité de Valérie Giscard d'Estaing. Merci beaucoup. On évoquait cette entrée, Marc Lambron, de Valérie Giscard d'Estaing à l'Académie française où vous êtes, dont vous êtes un des immortels aujourd'hui. C'est en 2003 que l'ancien président va rejoindre les rangs des immortels, 6 ans avant la sortie du roman La Princesse et le Président en 2009. Sa candidature va faire polémique. Est-ce que pour lui, quand même, elle répond à un certain complexe? Être reconnu comme écrivain par son entrée sous la coupole, c'était important pour lui?
Alors, je crois qu'il avait compris, Jean-François Cirelli l'a dit, que la France est un pays de politique littéraire. Donc, il y a Maupassant, et sous son septennat, souvenez-vous, il y a aussi un déjeuner où il convie Philippe Solers, Roland Barthes, Bernard-Henri Lévy à sa table, ce qui est aussi un clin d'œil à la gauche. Alors, entre parenthèses, l'écrivain dont je l'ai beaucoup entendu parler, et qui l'avait impressionné parce qu'il l'avait croisé en 44, et puis ensuite au Conseil des ministres, c'est Malraux. Donc la figure de Malraux le retenait parfois avec des petites anecdotes. Il se souvenait d'une soirée à l'ambassade d'Allemagne dans les années 60 où Louise de Villemorin avait désigné Malraux qui était à l'autre bout du salon en lui disant « Vous ne trouvez pas qu'il est bizarre ?» Bon, alors l'entrée à l'Académie, je crois que ça a été une prise de deuil de sa carrière politique. On est en 2003. Noblesse oblige, il se fait tout de même élire au fauteuil d'un président, c'est-à-dire le président Senghor. Il devient, comme vous l'avez dit, un auteur de romans, peut-être incertain, et un académicien assez assidu. Il était très présent à l'Académie. Il intervenait toujours dans le sens de la simplification et parfois nous proposait des petits exposés sur des thèmes en 10 minutes, un peu comme un PEX à Sciences Po, sur l'Europe, par exemple, où il était tout à fait lumineux. Et plus singulièrement, l'année dernière, je crois que c'était en juin 2019, un exposé sur l'heure d'été, qui était très polytechnicien, très très chiffré, sans doute parce que ça avait été institué, je crois, sous son septennat, et qu'il tenait aussi à c'était un homme de lettres, voulait-il l'être, mais d'abord un homme de chiffres.
Alors, rentrer à l'Académie française, est-ce un gage de modernité encore? C'est peut-être aussi la deuxième vie de cet homme, ancien président, amoureux des lettres, écrivain et grand lecteur, on le disait, on est avec nous justement, ça tombe bien, un romancier, Éric Reynard, auteur de Comédie française en cette rentrée, votre 8e roman, prix des Inroc, aujourd'hui. Vous nous racontez dans ce roman, vous faites la comparaison à travers deux lignes romanesques, comme on dit, de deux histoires, celle de Dimitri Marguerite, née à la fin des années 80, et celle de Louis Pouzin. Louis Pouzin, alors ça c'est assez fascinant parce que c'est l'homme qui a failli faire d'Internet une invention française. C'est un homme des années 70 et votre plume, Éric Reynard, fait le voyage, ses allers-retours entre notre époque et cette décennie, cette fameuse décennie Giscard, qui était aussi une décennie créative d'invention. C'est pas pour rien que Louis Pouzin a failli inventer Internet dans ce moment-là ou que ses recherches ont pu avoir lieu. Bonjour Éric Reynard.
Oui, bonjour. Oui, en effet, je mets en scène dans mon roman Louis Pouzin mettant au point le datagramme, qui est la technologie sur laquelle repose Internet. Il avait créé un réseau qui s'appelait le réseau Cyclade, et qui était la préfiguration d'Internet, alors expérimentale. Il se trouve que parallèlement, Donc en effet, on peut considérer de ce point de vue-là que l'époque était très créative, pardon. Et en particulier en France, il y avait les ingénieurs du CNET qui étaient en train d'élaborer le réseau Transpac à partir de la norme X25 et ce qui allait donner naissance un peu plus tard au Minitel. Et donc, il se trouve que le Minitel et la préfiguration d'Internet se sont retrouvés à ce moment-là en concurrence, une concurrence assez vive, parce que l'establishment des télécoms voyait d'un très mauvais œil l'irruption, comme ça, de cette nouvelle engeance considérée comme subalterne des informaticiens. Alors, je ne vais pas accabler Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, ce serait indécent, mais il se trouve que les recherches de Louis Pouzin ont été très sérieusement compromises et ont même été interrompues parce qu'à peine élu, Valéry Giscard d'Estaing a dissous le plan calcul, dissous la délégation générale à l'informatique, au sein de laquelle Louis Pouzin élaborait le datagramme et le réseau Cyclades, et last but not least, il a disloqué le consortium informatique européen Unidata, qui aurait pu devenir l'Airbus de l'informatique. C'était un axe franco-allemand, C2I, Siemens, auquel s'était joint le néerlandais Philips. Vous m'entendez ?
Je vous entends, pardon.
Ah, pardon.
Je vous écoutais. C'était une occasion. Alors, ça a été quand même d'accélérer un tout petit peu, Éric Reynard. Ça a été une occasion manquée. Est-ce que vous pensez que cette décennie a été faite de beaucoup d'occasions manquées comme celle-ci ? De très bonnes intuitions, mais aussi des occasions manquées.
Là, ça a été vraiment une occasion manquée. Mais alors, on ne peut pas incriminer directement Valéry Giscard d'Estaing, et ça, je vais être clair. C'était très, très difficile à cette époque d'avoir le discernement suffisant, presque visionnaire, pour anticiper ce qu'allait devenir ces réseaux de transmission de données. Mmh. Alors on peut considérer que les Américains, eux, avaient peut-être un degré supplémentaire de vision sur la chose, puisque en fait ils se sont tout simplement emparés du datagramme abandonné par les pouvoirs publics français pour créer Internet et en rusant pour être les premiers à s'installer à prendre place et à s'installer pour le faire fructifier sur ce nouveau territoire qui allait donner lieu à la société numérique. Mais donc, en fait, il se trouve que c'était pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. On pourrait considérer que c'était l'ancien monde et que les relations entre les industriels et le gouvernement étaient assez particulières, et surtout en France, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur un territoire mondialisé ouvert à la libre concurrence. Et à cette époque-là, il y avait vraiment une connivence de castes et des liens très étroits entre les pouvoirs publics, la présidence de la République, les ministères, etc., et les industriels français, ça serait les plus puissants, qui, dans le fond, se partageaient les marchés publics et tout ça se négociait sur les tapis des salons ministériels, en Sologne, etc.
Et avec la mort de Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi la mort d'une époque, une époque qui s'est éteinte, vous le racontez bien à l'instant, Éric Reynard. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Comédie française, votre roman à lire pour ressentir et prendre le pouls de cette décennie, apparu chez Gallimard. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, à Henri Leblanc avec Oriane Delacroix. Merci beaucoup à eux, à la réalisation aujourd'hui. C'était Thomas Beau avec Laurie Vachon à la technique. Bel après-midi à tous sur Culture.